Bienvenue à l'émission Un jour à la fois en compagnie de René et son équipe.
C'est le moment de notre émission Un jour à la fois. Bienvenue à tous. Quel plaisir de se retrouver. Après une semaine d'absence, on a le privilège de pouvoir à chaque semaine recevoir un invité, approfondir le tourment humain, hein, la condition humaine, se positionner sur cette condition et y apporter des changements grâce à une proposition en 12 étapes, celle des Alcooliques Anonymes. Elle est une association internationale d'hommes et de femmes qui avaient un problème avec l'alcool. Non professionnels, politiques ou religieux, ils s'autofinancent et on les retrouve presque partout. Sans règle d'admission, tous ceux et celles qui veulent faire quelque chose à propos de leur problème d'alcool peuvent devenir membres. Basé sur les 12 étapes des AA, un groupe de principes de nature spirituelle qui, lorsque mis en pratique comme mode de vie, peuvent chasser l'obsession de boire et permettre à celui et celle qui souffrent de se sentir heureux et utile. Oui, c'est une promesse, c'est une énoncé qui a fait ses preuves depuis 85 ans pour des millions de personnes alcooliques et souffrantes de divers maux à travers le monde depuis tout ce temps-là. Et on en a encore la preuve ce matin. On a une belle jeune fille qui fait partie de cette fraternité, évidemment, et qui va nous parler de sa vie, des difficultés de son passé et de son expérience actuelle. J'ai oublié de vous dire que je me prénommais René et que je suis moi-même membre de cette fraternité, donc alcoolique, et je suis accompagné d'Isabelle qui, depuis quelques semaines, s'est joint à l'équipe comme co-animatrice et qui sait, pour peut-être prendre un peu plus d'espace au fil des émissions. On est très content de t'avoir avec nous. Merci à vous deux. On est prêt à entrer dans l'histoire de Kelly. On te laisse la parole.
Bonjour à tous. Je vais commencer par me nommer Kelly alcoolique. Je vais prendre un petit moment parce que je suis stressée beaucoup. Moi, je viens d'une famille... en fait, je suis née à Saint-Hyacinthe en 1995, donc ce qui me donne 25 ans, en fait. Je suis née dans une famille assez, comment je pourrais dire, défavorisée, pauvre. On vivait dans une maison mobile à Upton. On était 4 enfants. On est toujours 4 enfants, en fait. On n'avait pas toute une chambre chacun. On avait plutôt une chambre pour 2 enfants. Donc, c'était difficile. Ça devenait difficile avec le temps de vieillir comme ça avec ma sœur, mes 2 frères, parce que j'ai une sœur et 2 frères. Bon, je vais vous conter comment s'est passé un peu mon enfance. C'est ça, on habitait dans une maison mobile en arrière d'un camping. Donc, l'été, c'était le fun, on avait le camping pour jouer. Mais l'hiver, il se passait pas grand-chose. En fait, on était plus délinquants qu'autre chose, vu que nos parents se sont plus ou moins occupés de nous. En fait, on a été laissés à nous-mêmes. C'est mon grand-père et ma grand-mère qui habitaient de l'autre côté de la rue qui nous ont élevés. Vu l'alcoolisme de mes parents, eux c'était une 24 par soir, puis ils en oubliaient qu'il y avait des enfants à s'occuper, qu'il y avait des enfants à nourrir. Mon père, lui, il travaillait beaucoup, il travaillait 80 heures semaine en mécanique automobile. Puis ma mère, elle disait qu'elle restait à la maison pour s'occuper des enfants, ce qui était pas vraiment le cas. C'était plus son ordinateur puis de l'alcool. Donc c'est T'sais, ça a fait des enfants plutôt turbulents. Pour se défouler, on allait défoncer des roulottes quand on était au camping l'hiver. On volait beaucoup dans les dépanneurs. On faisait beaucoup d'intimidation sur un jeune garçon de notre entourage. Puis, à un moment donné, moi, au primaire, j'étais une enfant intimidée qui intimidait d'autres personnes. C'était ma façon à moi de me défouler. Vu le manque d'attention de mes parents, j'ai commencé à me renfermer sur moi-même, puis au primaire, je me suis fait énormément intimider, je me suis fait battre, au point où dans mes sandwichs, sur l'heure du dîner, j'avais des menaces de mort. Quand t'as 7 ans puis que t'as des menaces de mort dans tes sandwichs, mais c'est sûr que ça fait un enfant plutôt renfermé, puis qui a peur de tout le monde. Je me faisais battre par les autres enfants, je me faisais écœurer, je me faisais intimider, j'étais grosse, j'étais pas belle, j'avais pas les vêtements de l'année parce que justement mes parents étaient pauvres. Pour avoir tout ça, il fallait que l'été, on se lève à 5 heures le matin, des fois à 4 heures pour aller travailler dans les champs, cueillir des fraises, des fèves, du blé d'Inde, tout ce qui se récolte, dans le fond, nous, on faisait ça pour payer nos études du primaire, du secondaire, parce que ma mère travaillait pas, mon père y arrivait seulement pour payer la maison, pour payer les frais et tout, l'épicerie. Puis ce qui nous revenait à nous, on le dépensait justement pour nos frais scolaires, nos effets scolaires. Puis le restant, ma mère, elle prenait pour acheter de l'alcool pour eux. Donc les vêtements, ça passait en dernier, donc on s'est fait énormément écœurer quand j'étais au primaire. Mais ça forge un caractère. Ça forge un caractère, puis ça responsabilise un enfant énormément. J'aurais aimé ça, par contre, pouvoir jouer avec les autres enfants, mais bon, au moins aujourd'hui, je suis une fille responsable. J'ai eu des bonnes valeurs. Puis, c'est ça. Quand j'arrivais de l'école primaire, je disais à ma mère que je me faisais écœurer, que j'avais des menaces de mort dans mes sandwichs, que les gens avaient brisé mon thermos, il y avait de la vide dedans, je pouvais pas manger mes lunchs. Puis ma mère, elle a me répondu, « Ben non, c'est impossible. Les enfants sont pas méchants comme ça avec toi. L'école m'aura appelé. » Fait que j'ai continué à endurer tout ça, puis en sixième année, j'ai terminé ma sixième année avec l'espoir de pouvoir être une autre personne au secondaire. Je rentrais au secondaire à Saint-Hyacinthe, à la PhD. Puis à ce moment-là, je me suis dit, je vais pouvoir devenir une autre personne, devenir celle que les gens vont apprécier, celle avec qui ils vont aimer passer du temps. Dans le fond, celle que je suis pas vraiment. Puis l'été passe, j'ai travaillé énormément pour pouvoir m'acheter beaucoup de linge, beaucoup d'effets scolaires cool. Et là, je suis rentrée au secondaire à Saint-Hyacinthe. Et j'ai rencontré plusieurs personnes qui avaient l'air de m'apprécier, mais pas plus que ça. J'ai rencontré une personne fantastique qui est encore ma meilleure amie aujourd'hui. Avec elle... je me sentais vraiment acceptée, mais on s'est éloigné un petit moment. Puis pendant ce moment-là, moi, j'ai rencontré une autre fille avec qui je me suis... sur laquelle je me suis accotée. Elle était plus jeune que moi. Mais on a eu beaucoup de... On a vécu beaucoup de choses ensemble, partant de l'alcool... des problèmes. Après ça, on en est arrivé à la drogue dure. Tout ça dans un laps de temps réduit. Cette personne-là aujourd'hui, je dois admettre que elle me manque. Pas la consommation d'alcool, de drogue, peu importe. Mais cette personne-là a beaucoup changé. Mais au début, c'était comme ma petite sœur. Puis, on volait dans les dépanneurs, on volait de l'alcool. Rendu au coin de la rue, on n'en avait plus. Fait qu'on retournait au dépanneur voler de l'alcool. On consommait de la drogue. On retournait au dépanneur, on volait de l'alcool. On manquait tous nos cours à l'école pour aller boire, pour aller consommer toutes sortes de substances. Ce qui a fait que je me suis fait mettre dehors de l'école. Mes parents étaient pas très contents quand je me suis fait arrêter par la police non plus. C'est sûr que quand la police t'appelle pour te dire qu'ils ont pogné ta fille dans un parc en train de boire de l'alcool, puis consommer de la drogue sur une heure de dîner, puis que tu te fais arrêter, c'est sûr que les parents sont pas contents. Donc, je me suis rebellée beaucoup, je me suis battue avec d'autres enfants, d'autres adolescents du secondaire. En fait, je battais les gens pour me défouler, en fait, pour aucune raison. J'ai eu des problèmes judiciaires par rapport à ça. Jusqu'au jour où je me suis éloignée de cette personne parce que cette personne-là était néfaste pour moi, puis je l'ai remarqué la journée où je lui ai dit que, dans le fond, là, la consommation, ça suffisait, là, que... Elle avait 14 ans, donc c'est sûr qu'à 14 ans, quand cette personne-là me dit « Ah, mais là, ça me prend ça! » Ouais, j'ai pas tellement aimé ça, donc j'ai commencé à m'éloigner tranquillement de cette personne.
Kelly, merci beaucoup pour ce début de parcours. On va passer à une première pause. Je suis vraiment content que tu aies accepté l'invitation. On sent cette jeunesse, cette fougue, cette description. On voit que c'est tout récent hein, dans ta vie. Elle est encore présente. On peut la palper, la mettre en image. Et ton timbre de voix, évidemment, ne transmet ou ne transcrit aucunement cette jeune fille violente qui battait et qui abusait. C'est quand même assez surprenant d'entendre ça d'une si belle voix. On revient dans un court instant. Merci.
Ce dont je me souviens le plus souvent, c'est la solitude que je ressentais. L'isolement au milieu du monde. À la fin, je trouvais plus de plaisir à boire. Depuis que j'ai commencé à assister aux réunions des AA, je me sens revivre. Et c'est peut-être ce que j'ai vécu de plus important. Je m'aime réellement moi-même. Et c'est très bon. Les AA sont comme un miracle dans ma vie. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur AA.org.
Vous écoutez l'émission Un jour à la fois en compagnie de René et son équipe.
Alors bonjour, nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. C'est Isabelle à l'antenne et je suis une alcoolique co-animatrice avec René. On va faire une courte lecture d'un texte inspiré de la littérature de AA. Alors, c'est les réflexions de Bill. Alors aujourd'hui, tiré de la page 169, voici. Mon expérience en tant que membre pionnier a été assez semblable à la vôtre et à celle de beaucoup d'autres. Nous nous rendons compte qu'il vient un temps où il ne nous est plus permis de diriger les affaires d'un groupe, d'une région ou, comme dans mon cas, de l'ensemble des arts. Finalement, notre seule valeur réside dans notre exemple spirituel. Somme toute, nous devons nous contenter d'être des symboles utiles. Je suis devenu un élève du mouvement des AA plutôt qu'un professeur, comme je croyais l'être autrefois. Alors voilà pour la lecture. Nous poursuivons avec Kelly qui a un super beau message déjà pour son jeune âge et puis nous avons bien hâte de continuer donc à connaître son histoire. Vas-y.
Donc, comme je disais avant la pause, en fait, j'ai décidé de mettre un terme avec cette jeune fille-là de 14 ans. Elle était en couple avec un jeune homme qui consommait aussi beaucoup d'alcool, énormément d'alcool, beaucoup de drogue. Déjà, à cet âge-là, moi, j'étais dans une rigoureuse honnêteté. Parce que ça, c'est une des choses que mon père m'a inculqué. T'es mieux de dire la vérité. Ça va faire mal, oui, mais au moins, tu vas avoir été honnête. Donc, à un moment donné, je conduisais mon auto toujours dans l'optique de mon alcoolisme et de ma consommation de drogue. J'avais seulement que mon temporaire, ma bouteille de fort entre les deux genoux, puis une autre en dessous du banc, question de pas en manquer. Puis je passais en avant de chez elle et son copain, puis au même moment, il y a un des passagers de mon auto qui me dit « Ah, là, elle est en train de... c'est en train de te traiter de plusieurs noms que je ne nommerai pas. Donc, j'ai arrêté et là, ça l'a mal viré. J'étais déjà dans un état très avancé. Puis, d'après moi, elle aussi. J'ai dit à son copain qu'est-ce qu'elle faisait deux jours avant, dans le fond, puis il n'a pas accepté d'entendre la vérité. Je le sais parce que c'est moi qui avais été la porter là-bas. Puis finalement, il m'a pris par les bras, il m'a comme tenu par les bras en arrière, puis il a regardé, puis il a dit « Vas-y, frappe, varge. » Finalement, cette fois-là, j'ai été défigurée. Ce qui m'a amené à avoir une très, très grande peur des gens. Donc, avec mon primaire, avec cet événement-là, ça a été ce qui a fait de moi une personne très anxieuse, très renfermée. Puis encore aujourd'hui, j'ai beaucoup de difficultés à m'ouvrir aux gens, à me faire des amis parce que j'ai peur que ça me revienne d'en face encore. Mon grand-père... Dans ce temps-là, mon grand-père avait pris soin de moi parce que je voyais rien, j'avais tellement la face enflée. Il a pris soin de moi, il m'a aidé énormément. Pas longtemps après, moi j'avais un copain. On est partis en appartement ensemble. Mais là aussi, ça l'a mal viré parce que j'étais beaucoup dans ma déchéance. Je vais dire ça comme ça. J'étais beaucoup dans ma déchéance. Je suis tombée enceinte. Lui, il voulait pas d'enfant, puis ben moi, j'en voulais. Puis l'avortement, mais c'est pas dans mes valeurs. Mais j'ai dû passer par-dessus une de mes grandes valeurs, puis ça m'a changé. Ça m'a changé. On s'est séparés pas longtemps après. Je suis retournée chez mes parents, j'ai déménagé là-bas. Puis mon grand-père est décédé pas longtemps après. Lui qui venait toujours me faire sourire. C'est toujours lui qui trouvait le moyen de me remonter le moral. Donc avoir perdu ma petite fille, puis avoir perdu mon grand-père pas longtemps après, tout ça c'est venu me détruire. Je suis tombée dans l'alcool encore plus que j'étais. J'ai tombé dans les drogues encore plus que j'étais. Je mélangeais n'importe quoi tant que je pouvais ne pas penser à tout ça. Mais quand tu fais ça, tu vis pas tes émotions, tu les mets dans un coin à l'intérieur de toi, puis tu fermes la porte à clé, puis tu veux pas ouvrir cette porte-là. Donc, je me suis noyée dans l'alcool énormément. Je ne vivais que pour l'alcool. Les drogues. J'avais une bonne job. J'étais inspectrice ASEP dans une usine ASEP de transformation de nourriture. J'avais quand même un bon poste. J'ai quitté tout ça pour aller renouer des liens, en fait, que j'avais perdu de ma meilleure amie. J'ai changé d'emploi. J'allais renouer ces liens-là qui, pour moi, aujourd'hui, valent de l'or. Ça fait 13 ans qu'on est des meilleurs amis. Cette personne-là m'aide beaucoup. Puis si j'arrive à m'en sortir, si je suis arrivée à me sortir un peu de cette tristesse-là, c'est grâce à elle. Je suis retournée en appartement toute seule, à Saint-Hyacinthe. Ça a quand même bien été, sauf que j'avais une propriétaire plutôt harcelante. Elle rentrait chez moi sans autorisation. Quand j'arrivais de travailler, elle était assise dans mes marches, elle m'attendait devant la porte. Tout ça pour pour me jaser, pour me demander comment j'allais. Puis... Mais à un moment donné, son frère, quand j'ai déménagé, il est devenu violent. Puis parce que au travers de tout ça, j'ai voulu aider un ami qui, lui, était beaucoup dans la consommation de drogue dure. Je l'ai hébergé chez moi, puis il a viré mon appartement. Je vais le dire en bon terme, j'ai viré mon appartement en maison de crack. Donc, je me suis fait mettre dehors. Puis à mon déménagement, ben c'est ça, son frère, le propriétaire, est devenu violent avec moi. Il m'a poussé pour que je parte le plus vite possible. À ce moment-là, j'avais encore beaucoup de douleur par rapport à ce que mon ami m'avait fait. Ça m'a traumatisée, puis je vais rester traumatisée longtemps aussi. J'ai eu une crainte maintenant par rapport à des propriétaires, par rapport à des amis, par rapport à... Tout ça ensemble fait que j'ai plongé solide. Chez mes parents, je finissais de travailler à 11h30 le soir. Puis quand j'ai quitté cet appartement-là, je suis retournée chez mes parents. Puis quand je terminais de travailler, mais j'avais besoin d'alcool. J'avais besoin d'une ligne. C'était plus fort que moi. À ma pause, j'allais m'acheter de l'alcool. Je me faisais livrer ma drogue à ma job. C'était comme ça mon mode de vie. C'était comme ça mon mode de vie. Pas longtemps après, j'ai rencontré une autre personne, un autre homme qui m'apporte un bien fou. Aujourd'hui, c'est mon meilleur ami. Puis ça a été une des premières personnes à qui j'ai réussi à me confier réellement depuis tous ces événements-là. Ça n'a pas été facile au début parce qu'on a commencé en tant que fréquentation. Après ça, on est tombé en couple. Moi, j'avais déjà arrêté de consommer. Ça faisait quelques mois. On est resté 8 mois ensemble. Donc, au bout de la ligne, j'ai resté à peu près 1 an sans consommation, mais sans mode de vie non plus. Ça a été plutôt dur parce que lui aussi avait décidé d'arrêter de consommer. Donc, les deux, pas de mode de vie, pas de consommation. On chicanait souvent. C'était pas facile à vivre. On se parlait pas. C'était à peine si on voulait se voir, en fait. En fait, moi, j'y tapais ses nerfs, puis lui me tapait ses nerfs. Fait que c'était pas une bonne relation de couple. C'était plutôt néfaste. Donc, on s'est séparés. Ça a été dur, parce que, dans le fond, je l'aimais. Mais... Je l'aimais d'une façon néfaste. Je crois que je l'étouffais, en fait, parce que, justement, c'était comme ma première relation depuis toutes ces souffrances-là. Donc, je pense que je l'étouffais en voulant le garder que pour moi, toujours pour moi. Puis j'étais beaucoup dans mon égocentrisme par rapport à cette personne-là. On est resté 1 an, à peu près 1 an sans se parler, sans se voir. Là, j'ai remarqué que j'avais déjà été diagnostiquée TPL, mais là, j'ai fait beaucoup de travail sur moi, en fait. J'ai fait des petites thérapies externes là-dessus pour la dépendance affective, pour mon trouble de personnalité limite, TPL. Ça m'a aidé énormément.
Kelly, je suis profondément ému et heureux que tu aies trouvé cette merveilleuse personne que tu es en train de devenir. J'avais déjà eu l'occasion de partager un peu avec toi. On a échangé quelques expériences. Je sens une lumière, une présence, une divinité qui t'habite. Je crois que toutes ces souffrances ne seront pas vécues en vain. Parce que il y a beaucoup de positif à travers ton message et ton expérience. Je suis convaincu que tu vas influencer ou inspirer plusieurs de nos auditeurs. On revient dans un instant.
Je me sentais seule, angoissée, agressive, et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidée à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur AA.org.
Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie de René et son équipe.
Bonjour, nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Alors voilà, si tu souhaites en apprendre davantage sur le mouvement AA, tu consultes le site internet aa-québec.org. C'est tout en minuscules, pas d'accent. Alors où tu trouveras, par exemple, le numéro de la ligne d'aide de ta région. Si tu ressens aussi le besoin de parler, la liste des réunions près de chez toi, puis il y a beaucoup de réunions Zoom maintenant, fait que donc ça peut être de chez toi, et une foule de réponses sur la structure de ce grand organisme qui est le mouvement des alcooliques anonymes. Alors, nous poursuivons avec le partage de Kelly qui, après une relation tumultueuse de 8 mois, a décidé de se prendre en main, de faire un peu de thérapie, d'apprendre sur elle. Alors, on va continuer à connaître sa belle histoire. Alors, à toi, Kelly.
Donc, comme je disais, j'ai fait beaucoup de mini-thérapie externe. En fait, c'était des... comme des rendez-vous que je faisais au CLSC pour en apprendre plus sur mon TPL, sur mon trouble de personnalité limite, en fait, sur ma dépendance affective, sur... dans le fond, moi, je fais beaucoup de dépression quand ça va pas bien. Là, je tombe en dépression. Donc, j'ai appris à gérer tout ça en allant à des réunions externes. À ce moment-là, moi, je connaissais pas le mouvement des alcooliques anonymes. Mais par contre, je dois avouer que ça m'a énormément aidé à me retrouver moi-même et être capable de vivre avec moi-même. Après ces mini thérapies là, on était rendu au mois de décembre 2019 là, début 2020, janvier début 2020. Moi et mon meilleur ami, on a commencé... on a repris contact, moi et cette relation-là, qui est devenue mon meilleur ami au fil du temps. Lui, dans le fond, vivait un moment difficile dans sa vie. Je l'ai texté pour, dans le fond, lui souhaiter mes sympathies. Puis on a continué à se parler. Certes, j'avais quand même recommencé à consommer de la drogue, de l'alcool... en moins grosse quantité, mais j'avais quand même rechuté là-dessus, après ces mini-thérapies-là. Puis, lui aussi, il m'a dit qu'il avait recommencé à consommer, donc ça n'a pas été long qu'on a consommé ensemble. Autant de l'alcool que des drogues, ça a été du soir au matin, ou du matin au matin. Souvent des journées entières et des semaines entières sans dormir. Et on s'est entraînés vraiment dans une très grande déchéance, tous les deux. On a touché notre bas-fond. Lui a touché le sien, moi j'ai touché le mien de façon différente. Mais on a quand même touché un bas-fond ensemble en avril. Puis ce bas-fond-là nous a emmené à comprendre qu'on était rendu trop loin dans cette consommation d'alcool et de drogue-là. Donc lui, par lui-même, a décidé de partir en thérapie. Certes, je vais parler beaucoup de lui et moi parce que maintenant on chemine ensemble. On est comme deux doigts de la main. En fait, on fait presque tout ensemble. On va déménager en appartement ensemble maintenant. Mais pour revenir à cet événement-là, en fait, après le 24 avril, il a décidé qu'il partait en thérapie. Une thérapie fermée de 3 semaines à l'alcôve. Puis... mais moi, j'allais pas en thérapie. Je savais que lui, quand il allait revenir, c'était aucune consommation. Donc, moi aussi, j'ai arrêté de consommer, mais je l'ai fait pour moi. Vraiment, c'est la première fois que j'arrêtais de consommer toute substance pour moi. Pour mon bien-être, pour ma santé physique et mentale. Donc, il est parti au mois de juillet en thérapie. De avril à juillet, on a quand même consommé énormément. Ça a été des mois difficiles, des semaines difficiles au travail. Puis quand il est revenu au mois d'août, après son 3 semaines, moi j'ai j'ai dit, moi j'ai fait ça à la maison, j'ai pas été en thérapie, j'ai fait ça par moi-même, j'ai sorti la drogue, j'ai sorti l'alcool, j'ai sorti tout ce qu'il y avait de néfaste, tout ce qui pouvait nous apporter à une rechute de l'endroit où on vit. Puis depuis ce temps-là, au lieu de s'aider dans notre déchéance, mais on s'aide à se rétablir avec le programme des 12 étapes des alcooliques anonymes, en faisant des meetings, en ayant un parrain, marraine avec qui on peut discuter, en ayant une puissance supérieure. Moi, ma puissance supérieure, j'ai pas peur de le dire, c'est mon grand-père. Pour certains, ça va être Dieu, mais moi, c'est mon grand-père, pour la simple et bonne raison que c'est lui qui m'a guidée dans ma vie. C'est toujours lui qui m'a guidée vers les points positifs. Donc, ça va rester lui aussi qui va compter. C'est lui qui me guide. J'ai ma marraine aussi biologique qui est décédée en 2009. Elle aussi, elle me guide énormément. Faire ça tout seul, c'est difficile d'arrêter de boire, de consommer tout seul. Mais ce que j'ai appris au fil du temps dans mon 6 mois d'abstinence, parce que maintenant, je vais avoir 6 mois d'abstinence le 23 janvier. Ce que j'ai appris au fil du temps dans ces 6 mois-là, c'est que faire ça tout seul, c'est impossible. C'est une méthode qui n'est pas approuvée. Je ne conseillerais pas non plus parce que c'est quasiment sûr que t'en arrives à une rechute. Parce que croire qu'on peut faire ça tout seul, c'est quelque chose qui, pour moi, est incompréhensible parce que c'est tellement gros, une obsession comme ça d'une consommation. C'est tellement quelque chose d'énorme, c'est tellement quelque chose de gros que je peux pas gérer ça toute seule. Ça me prend mes puissances supérieures qui sont en haut, qui me guident, qui m'enlèvent cette obsession-là. Parce que sinon, moi, c'est sûr que j'irais probablement retourner consommer de la drogue ou de l'alcool ou peu importe les substances. Quand ça m'arrive une obsession comme ça, mais je fais ma 3e étape. Nous avons décidé de confier notre volonté et notre vie aux soins de Dieu tel que nous le concevions. Mais comme je dis, si t'sais, pour moi, c'est ma puissance supérieure. Donc, tu sais, je remets ça dans les mains de mon grand-père, puis il m'enlève ça, cette obsession-là. Mais si je n'avais pas le programme des 12 étapes des alcooliques anonymes, le gros livre. En fait, j'ai eu une marraine dans le mouvement. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Mais si j'avais pas eu cette madame-là non plus, je serais pas rendue là. C'est elle qui m'a donné mon jeton du nouveau. C'est elle qui m'a donné mon jeton de 3 mois. Mais le destin a fait que ma puissance supérieure a fait que on ne chemine plus ensemble, malheureusement. Mais quand t'es dans ton programme, quand tu fais tes étapes, moi je suis rendue à ma 4e étape, que je vais débuter bientôt. Quand tu fais tout ça, ça confère un bien-être à l'intérieur. C'est indescriptible la façon que je me sens en ce moment dans la non-consommation. Et tout ça, c'est grâce aux alcooliques anonymes, grâce à mon groupe d'attache. Moi, je suis arrivée dans Alcooliques Anonymes en pleine pandémie. Donc, des meetings en salle, je connaissais pas vraiment ça. En fait, mon premier meeting a été en salle, mais ensuite, ça a été tous des meetings par Zoom. Mon premier meeting, je l'ai fait seule à Saint-Hyacinthe. Mon meilleur ami est en thérapie. Je voulais m'habituer tout de suite à faire des meetings, question d'être à l'aise, mais qui sortent qu'on peut en faire ensemble. Mais à ce moment-là, je savais pas si j'étais alcoolique ou juste toxicomane ou je savais pas. Mais en écoutant les gens parler dans les meetings, je me suis rendu compte que oui, j'étais alcoolique. J'étais réellement alcoolique, je pouvais pas le nier. Mais j'ai mis ça dans les mains de ma puissance supérieure, puis les meetings Zoom sont arrivés, donc j'ai pu continuer à faire des meetings. Certes, c'est différent. Le contact physique n'est pas là. T'as pas l'ambiance d'une salle. Tu veux un café, mais tu vas t'en faire un dans ta cuisine. Mais tu peux pas jaser avec d'autres mondes. Oui, il y a les after meetings. Dans mon groupe d'attache, on a un after meeting, mais c'est différent. T'as pas l'ambiance d'être avec ces gens-là. Mais ce que je trouve très, très bien aussi dans les meetings Zoom, c'est que t'as des gens qui viennent de partout. Dans mon groupe d'attache, on en a du Nouveau-Brunswick, on en a de vraiment partout. Ce qui fait qu'on peut apprendre aussi leur façon de vivre. C'est différent de nous, probablement à cause de la pandémie. Leur activité diffère beaucoup des nôtres. Est-ce qu'ils ont de la neige? Je sais pas. Nous, en tout cas, ça commence. C'est ça qui est le fun. On en a d'Ontario. C'est beaucoup plus diversifié. Puis, je me sens à ma place maintenant, moi, dans des meetings Zoom. Comme ça, tu sais, ça me permet de me rapprocher des gens qui sont plus loin.
Kelly, je te remercie de nous apporter ce sujet, la réunion Zoom. Le mouvement des alcooliques anonymes s'est adapté, comme dans plusieurs domaines de la société, dû à la pandémie. Un revirement total sur la conception de l'anonymat, une ouverture sur la vidéoconférence qui permet à des gens 2020, des alcooliques nouveaux et renouveaux 2020, comme Kelly et comme plusieurs personnes que j'ai rencontrées, de commencer une démarche de rétablissement sans l'accès aux salles, sans l'accès physique, de se confier à un être humain, de sentir la chaleur, le regard. La vidéoconférence permet une première ouverture. J'ai eu le plaisir de rencontrer des gens qui ont pris, comme Kelly, des jetons de 3 mois, de 6 mois, de 9 mois, sans jamais n'avoir visité une salle d'alcoolique anonyme. C'est un miracle. Bravo à tous les bénévoles qui ont créé ce réseau. On revient après cette pause.
Si ton univers est contrôlé par l'alcool, il y a de l'espoir. Nous sommes les AA, des alcooliques qui aident d'autres alcooliques à devenir abstinents depuis plus de 70 ans. Nous sommes dans l'annuaire, dans le journal local ou sur l'internet au AA.org. Les alcooliques anonymes.
Vous écoutez l'émission Un jour à la fois en compagnie de René et son équipe.
Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Notre site internet, unjouralafois-émission.org, qui est tout en minuscules, sans accent, comme toujours, te donnera accès à nos tout nouveaux podcasts contenant toutes les émissions de l'année en cours, ainsi qu'à notre banque de fichiers de partage archivée de 2017 à aujourd'hui pour écoute sur tout appareil intelligent. On peut aussi y trouver les diverses heures de diffusion de nos collaborateurs radio et une adresse courriel pour toute question ou commentaire, et peut-être même venir nous visiter au studio et faire un partage. Ben oui, partager ton histoire personnelle de rétablissement, comme celle qu'on entend aujourd'hui, une très belle histoire, celle de Kelly en plus qui là, nous a parlé du début de son rétablissement et de son entrée chez les Alcooliques Anonymes. C'est tellement beau de l'entendre, alors poursuivons ce beau partage.
Merci beaucoup Isabelle. Comme je disais avant la pause, moi mon premier meeting a été en salle. J'ai eu beaucoup de chance parce qu'il n'y a pas longtemps après, tout a fermé. Mais par contre, j'ai entendu un partage durant ce meeting-là qui est venu me chercher tellement loin que j'ai accroché au meeting. J'étais triste de voir que je pouvais plus faire le meeting en salle, mais comme j'ai dit tantôt, les meetings Zoom aussi, je trouve ça tellement, tellement bien. Ce qui est bon aussi pour un alcoolique qui souffre encore, c'est d'essayer de juste faire un meeting, juste écouter. Sur Zoom, t'es pas obligé d'ouvrir ta caméra ni ton micro, mais seulement écouter des fois, ça peut faire du bien. Tu peux te reconnaître dans beaucoup de choses quand que les gens parlent. Et à ce moment-là, tu te sens beaucoup moins seul. Il y a des lectures durant ces meetings-là qui font que, comme les étapes, on a des promesses aussi à la fin des meetings. Ces promesses-là, moi, en tant que telle, après 6 mois d'abstinence, je commence à voir quelques-unes de ces promesses-là apparaître dans mon cheminement. Le fait, tu sais, quand ils disent « La crainte des gens et de l'insécurité financière disparaîtra », mais comme j'ai dit plus tôt dans mon partage, moi, les gens, j'ai énormément peur des gens. Mais aujourd'hui, je suis assise ici avec Isabelle et René. Je me sens à l'aise, je me sens bien. Ça, c'est grâce au mouvement, c'est grâce aux promesses. C'est grâce à mon groupe d'attache. C'est grâce à mon abstinence. Et surtout, c'est grâce à ma puissance supérieure. Je rencontre des gens formidables, des gens qui sont comme moi. Ou moi, je suis comme eux. Ça va dépendre de l'âge. Je dois avouer que je me suis jamais sentie autant à ma place que dans les alcooliques anonymes. Parce que peu importe ce que tu... La personne que tu es, mais t'es toujours acceptée dans les alcooliques anonymes. Tu vas... Si un jour je fais une rechute, mais je sais que je vais avoir encore ma place dans les alcooliques anonymes. Je ne souhaite pas ça, mais je sais que je vais toujours avoir, comme on dirait en ça, j'ai toujours une chaise dans les meetings alcooliques anonymes. Puis c'est sûr que c'est pas facile de se dénoncer, mais j'ai appris ça récemment avec ma thérapeute en relation d'aide. Le fait de s'énoncer, ça t'aide à accepter. Puis l'acceptation, c'est une chose avec laquelle faut vivre, parce que si tu acceptes, dans le fond, si j'accepte jamais, c'est que un jour j'aurai pas le choix d'accepter, puis là c'est plus de chances que je rechute. Donc j'apprends à faire ça tranquillement, mais c'est grâce au mouvement. Si je vois ma thérapeute en relation d'aide, si je suis maintenant capable de vivre sans alcool, de vivre sans consommation, que ce soit, tu sais, dans le fond, oui, c'est les alcooliques anonymes, mais moi, dans mon groupe d'attache, on est ouvert. Tu sais, je peux parler de mes consommations sans problème. C'est ce qui est merveilleux, c'est que les gens sont ouverts, sont pas fermés. Ça, c'est un cadeau du ciel, c'est un cadeau de ma puissance supérieure, ce mouvement-là. Parce que ma méthode, à moi, ça n'avait pas fonctionné. Je suis retournée consommer. Mais avec cette méthode-là, jusqu'à présent, c'est génial. Je vois la vie en rose, comme je pourrais dire. Je suis tout le temps de bonne humeur. Puis quand ça va pas, mais à n'importe quel moment de ma journée, il y a rien qui m'empêche de réinitialiser ma journée puis de recommencer à être de bonne humeur. Quand une obsession me prend, mais je me pars un meeting, puis dans la rigoureuse honnêteté, ce qui me fait le plus de bien dans mes obsessions, c'est un meeting discussion. Parce qu'il y a deux sortes de meetings, en fait. Il y a des meetings partage, des meetings discussion. Autant en salle quand ça va ouvrir que sur Zoom. Sur Zoom, il y en a plusieurs, les meetings discussion, et dans ces meetings-là, tu peux t'exprimer, tu peux parler de ce qui va pas. Puis ça m'a aidé énormément. Les gens ont pu me donner des conseils, des membres plus anciens ont pu me donner d'excellents conseils qui m'ont aidé à passer beaucoup d'obsessions. Puis dans ces conseils-là, on me dit que à l'intérieur de toi, t'as un loup noir, t'as un loup blanc. Les deux se battent, mais celui qui va gagner, c'est celui que tu vas nourrir le plus. Donc si je nourris mon loup noir avec des envies de consommer, c'est lui qui va gagner. Donc maintenant, grâce au mouvement, moi, je nourris mon loup blanc. Puis jusqu'à présent, je touche du bois, ça va très, très bien.
Moi, j'aurais une question pour toi, Kelly. Je te sens très déterminée, très assidue dans ta démarche de rétablissement. Comment ça se fait qu'une jeune fille si peu avancée, si on peut dire, dans les débuts de son relèvement, accepte de partager à une émission de radio? Je te trouve très, très courageuse. Avais-tu déjà vécu l'expérience de partage, tout simplement?
Moi, j'ai partagé en salle une fois. J'ai partagé sur Zoom aussi une fois dans mon groupe d'attache. Aujourd'hui, c'est mon troisième partage. C'est le meilleur que j'ai fait à date. c'est le plus complet que j'ai fait à date, donc je suis vraiment contente. Je trouve que c'est une expérience gratifiante. Je dirais ça parce que plusieurs personnes vont probablement m'entendre. Si je peux aider au moins une personne dans tous ces gens qui vont m'écouter, mais sans même le savoir, tu sais, à l'intérieur de moi, mais je vais avoir un bien-être, puis je saurais pas pourquoi. Puis ça, c'est ma puissance supérieure qui va m'envoyer comme un message pour me dire « Aujourd'hui, t'as aidé quelqu'un. » Donc, le fait de partager, d'animer, ou peu importe, dans les meetings, mais moi, c'est ça qui me tient debout aussi. Hein.
C'est vrai que ça reste une démarche un peu égoïste. Hein? C'est notre relèvement en premier à tout prix. On est prêt à mettre l'énergie. On nous propose le don de soi, le bénévolat, de s'impliquer. Mais tout ça, c'est par la bande pour récolter. Puis c'est exactement ce que tu viens de décrire. En ayant affronté tes peurs ce matin, en sortant de ta zone de confort, de venir dans un studio, de parler devant personne, en avant d'un gros micro noir, tout de suite la paye se fait sentir, hein, tu te sens plus vivante, plus posée, plus au bon endroit, puis ben je te félicite. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? J'aurais plein de questions à te poser, mais qu'est-ce que tu aimerais dire à une personne qui souffre présentement en boule chez elle ou qui est confuse?
Mais j'aurais envie de dire que il n'y a aucune bonne raison pour souffrir comme ça. Ouvre un meeting. Sur le site AA87, il y a une liste de meetings. Il va toujours avoir une personne pour parler avec toi. Ça va leur faire un plus grand bien. Ils vont t'aider autant que toi, tu vas les aider, que tu vas nous aider. Parce que des nouveaux membres, des nouvelles personnes qui connaissent pas le mouvement, mais ça l'aide des personnes qui ont plus d'abstinence parce que ça nous ramène à notre fragilité. Donc, si j'aurais un conseil à faire à une personne qui souffre encore en ce moment, ce serait d'ouvrir le site AA87, d'aller dans la liste de meeting Zoom, d'ouvrir un meeting parce que malheureusement, il n'y a pas de salle ouverte. Mais l'important, c'est au moins de faire un meeting, d'écouter et de rester jusqu'à la fin. Comme ça, mais après, tu vas pouvoir parler avec des gens qui sont là pour t'écouter, pour te conseiller. Puis probablement que tu vas avoir une liste de numéros de téléphone après ce meeting-là que tu vas pouvoir contacter quand ça va pas bien. Moi, c'est ce qui m'est arrivé, puis grâce à ça, je suis restée, puis je compte rester aussi.
Puis comment est-ce qu'on fait pour passer de la souffrance, de la paralysie, de l'inaction à l'action? Comment est-ce qu'on fait pour transcender ce mur de peur, pour rappeler, pour demander de l'aide? Comment ça s'est passé pour toi, entre autres?
Ben moi, je l'ai fait sans réfléchir. Parce que si j'y pensais trop, je le faisais pas. En fait, plus j'y pense, moins ça me tente. Fait que dans ces moments-là, je me dis, je vais faire le contraire. Je vais pas y penser, puis je vais le faire. Donc, c'est ça. Moi, c'est comme ça que ça s'est passé.
Kelly, on est déjà rendu à la fin de l'émission. Quel incroyable cadeau tu nous as fait à nous et à tous nos auditeurs. Un moment qui va rester gravé dans l'histoire d'Alcoolique Anonyme. Grâce à la technologie d'aujourd'hui, tu te retrouveras sur notre site Internet, dans les archives de AA87 dans le futur. Et on te fera même parvenir une copie numérique de ce beau moment que tu pourras partager avec tes proches. Je suis sans mots, je pourrais te remercier, te féliciter de centaines de manières, mais je veux juste te dire que je t'aime profondément, sans te connaître intimement. C'est un amour divin que tu provoques en moi. Merci infiniment. Je remercie Isabelle de m'accompagner dans cette émission. Je remercie nos auditeurs, l'équipe d'Un jour à la fois qui travaille dans l'ombre, nos collaborateurs radiodiffuseurs, ici René en compagnie d'Isabelle et de Kelly, qui vous souhaitent une bonne semaine. À très bientôt.